Et il est temps de nous écouter parce que 103 degrés, c'est peut-être pour bientôt, qui sait? Allez, 17h59 et 50 secondes sur campus. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et à bord du pédalo.
Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du pédalo, ce soir, le Dopcamp Festival, c'est les 11, 12 et 13 juillet à Jouy-sur-Erdre, pas très loin de Nantes. 9500 personnes attendues pour vibrer sur 4 scènes entièrement dédiées aux cultures reggae dub. Et on en parle avec le co-président du Dopcamp Festival, Clément Castagna. On aura aussi le plaisir d'écouter un reportage, l'eau, un enjeu de société. Aujourd'hui, on parle de la luzerne. La luzerne, une alternative écolo et durable pour l'alimentation animale, un reportage de l'autre radio en Mayenne. Voilà, vous avez le programme, vous savez tout, alors ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Face aux défis environnementaux, la culture de luzerne pour l'alimentation animale s'impose comme une alternative durable, peu exigeante en intrants et bénéfique pour les sols. Elle permet de réduire l'usage des pesticides et préserver la qualité des nappes phréatiques. La coopérative Daisy West s'engage à développer cette filière en augmentant les surfaces cultivées en luzerne. Une transition portée par les agriculteurs ligériens et accompagnée par les experts de la coopérative. Margot Doucet, de l'autre radio, nous emmène à la rencontre de Samuel Magnan, directeur général de cette coopérative située à Domagné et à Changé, dans le 35 et dans le 53. Il nous aide à mieux comprendre les enjeux liés au développement de cette culture. Un reportage en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Face à la pollution des eaux par les intrants agricoles, la luzerne pourrait être une alternative. Peu gourmande en engrais et pesticides, elle séduit de plus en plus d'agriculteurs. Mais alors comment développer cette filière à grande échelle? C'est justement l'enjeu du projet porté par la coopérative Daisy West qui possède deux sites, l'un à Domagné en Ille-et-Vilaine et le second à Changé en Mayenne.
Samuel Magnan, je suis directeur général de la coopérative Daisy West. Nous sommes une coopérative qui est née de la fusion de la coopérative Copedom, qui est la coopérative de déshydratation de forage d'Ille-et-Vilaine, avec la coopérative Codema, qui était la coopérative de déshydratation également, basée en Mayenne. Quelle est l'activité première de Daisy West? C'est la conservation et valorisation des fourrages, essentiellement à base de luzerne. En complément, on a les activités de déshydratation de maïs, de riz gras. Et au fil des années, nous avons développé, en lien avec la transition énergétique de la coopérative, on a développé la production de granulés de bois, qui viennent compléter les activités saisonnières agricoles.
Est-ce que de plus en plus d'agriculteurs se tournent vers cette culture-là ou est-ce qu'il y a encore des freins et quels sont-ils?
On a toujours un mouvement de va-et-vient, hein, je dirais, au niveau de nos adhérents. On constate un changement de génération actuellement. Donc les parents étaient convaincus de la luzerne. On a souvent les jeunes qui reprennent et qui se disent on va faire autre chose. Et je dirais ce qu'on constate actuellement, on a plutôt un retour vers la luzerne. Donc je dirais le collectif a toujours raison, comme on dit. Mais...
Avec Daisy West, on parle bien sûr de déshydratation de la plante. Alors, comment se passe ce processus et quels en sont les avantages?
Donc, pourquoi on déshydrate? L'objectif, c'est de conserver au mieux les qualités de fourrage sur pied. Le meilleur fourrage pour des vaches laitières, ça reste l'herbe pâturée, sauf que l'herbe ne pousse pas tous les mois de l'année. Il n'y a pas de pousse en hiver et l'été, on a une période sèche qui ne permet pas d'alimenter suffisamment le cheptel. La déshydratation, c'est une des techniques de conservation. Par contre, l'avantage de la déshydratation, c'est la seule technique qui permet de conserver l'intégralité de l'herbe ou de la luzerne sur pied. C'est-à-dire on va conserver à la fois les valeurs alimentaires, que ce soit les protéines, les glucides, les macroéléments, mais également les vitamines et les caroténoïdes grâce à la stabilisation du produit rapide. L'inconvénient de notre activité, c'est que l'on a besoin d'un apport d'énergie pour stopper tout phénomène de dégradation. Aujourd'hui, la coopérative a terminé sa transition énergétique puisqu'on est 100% en énergie renouvelable pour la partie thermique, avec des cultures énergétiques dédiées, la valorisation du bocage local et également sur l'usine de Changé où on valorise l'excès de chaleur de la boucle de chaleur de Laval Aglo.
On a pu le dire, la coopérative Daisy West se trouve sur deux sites, Domagné en Ille-et-Vilaine et Changé en Mayenne. Est-ce que ces deux sites produisent de la même manière ?
Domagné et Changé, on produit la même chose, oui. On est simplement, bon, les usines n'ont pas le même âge et les technologies ont évolué et se sont adaptées, notamment sur celle de Changé. On a adapté l'usine pour pouvoir valoriser la vapeur qui est excédentaire à certaines périodes de l'année sur la boucle de chaleur de Laval.
En ce qui concerne ces questions de gestion d'eau et de limitation des intrants chimiques, est-ce que, d'après vous, il y a d'autres choses à développer ?
On essaye toujours d'aller plus loin sur la réduction des produits phytosanitaires sur la luzerne. Notamment, on poursuit des essais régulièrement pour réduire les doses, voire avoir des alternatives en désherbage mécanique, de manière à se passer des produits phytosanitaires. Donc on a déjà fortement diminué, aujourd'hui on va jouer avec l'hygrométrie, etc., de manière à réduire au maximum les doses, en deçà des préconisations, et compléter par des alternatives mécaniques pour protéger au maximum la ressource en eau.
De votre point de vue, du point de vue de la coopérative, l'agriculture dans 10 ans, à quoi est-ce qu'elle ressemblera ?
Bonne question. On reste sur, je dirais, le Grand Ouest. Hein, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne restent des départements laitiers. Je pense qu'on va le rester, même si on constate une forte diminution de l'élevage, même dans nos régions. Se pose la question de la souveraineté alimentaire. Ce qu'on voit se profiler aujourd'hui, on a plutôt les élevages qui se spécialisent sur la production laitière. Et donc où les éleveurs sont très pointus à la fois sur la production animale, mais exigeant également sur la qualité de leur fourrage. Et quand on dit qualité des fourrages, c'est sensible également à la partie durabilité du système.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe, en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
C'était un reportage signé Margot Doucet pour L'Autre Radio.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Je vous propose qu'on se laisse quelques instants avec Iseo et Dodo Sound sur Campus. On revient juste après pour parler Reggae Dub avec le Dub Camp Festival. A tout de suite.
Se descontrola y se nos lleva. sea solo un instante, aunque me vaya a arrepentir. Y si me pides que salte, en el aire me abrazo a ti. Y si la caída se descontrola y se nos lleva como una ola, si se marchitan las amapolas y no iluminan ya las farolas, si la caída se descontrola y se nos lleva como una ola, si se marchitan las amapolas y no iluminan ya las farolas, recuérdame así, libre como el aire, suave como el agua, fuerte como el fuego.
Théo et Dodo Sand avec leur morceau Como un Volcan sur Campus. Vous êtes toujours à bord du pédalo. Merci beaucoup d'être avec nous. Iseo et Dodo Sand, c'est le choix de notre invité, coprésident du Dubcamp Festival, Clément Castagna. Salut Clément.
Salut Hugo.
Merci beaucoup d'être avec nous. Le Dubcamp Festival, c'est à Jouy-sur-Erdre les 11, 12 et 13 juillet. Et Iseo et Dodo Sand, donc, qu'on vient d'entendre, eh ben, ils y seront au Dubcamp.
C'est ça, exactement. On est très content d'avoir réussi à les inviter. Ce sera une des têtes d'affiche du vendredi soir, le 11 juillet, sur la Dub Club Arena. Ça fait plusieurs années qu'ils ne sont pas venus en France, donc on est très content. Ils font quelques dates cet été, dont un passage par chez nous. C'est super.
Et c'est cool, on vient de l'entendre, mais ils chantent en espagnol. C'est des Espagnols, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. Donc une chanteuse, Iseo, et Dodo Sound, un duo qui fonctionne depuis au moins une dizaine d'années, je pense. Et donc Dodo, lui, il mixe en live sur table de mixage et elle chante par-dessus. Donc c'est beaucoup de productions originales, quelques remixes de morceaux très connus avec une vibe reggae dub. C'est super, franchement c'est super.
Et ça, donc, c'est une de vos têtes d'affiche, mais des têtes d'affiche, vous en avez pas mal, notamment Charlie P Live Band.
Ouais, on est très content aussi. Charlie P qui vient de sortir un album qui s'appelle Roots. Et donc, c'est vraiment, on le connaît plutôt pour jouer d'habitude sur des trucs un peu plus énervés avec OBF notamment. Là, il fait un album qui revient un peu aux sources du reggae Roots comme il l'a découvert quand il était enfant avec son entourage. Voilà, c'est quand même mixé. Avec Rico de OBF et puis en live il sera accompagné d'un bassiste et d'une personne au mix, pareil, mix sur console analogique comme ça se fait dans la plus pure tradition du dub, donc ça va être génial.
Trop bien. Donc on vient d'en parler, Iseo et Dodo qui sont espagnols. Vous avez pas mal d'artistes internationaux, hein. Il y a aussi des Japonais, des Écossais. C'est aussi une des ADN du Dubcamp Festival de pouvoir faire venir comme ça des artistes qui viennent pas que de la France, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, on a quand même beaucoup de Français. On essaye de mettre pas mal en avant les Français. Mais évidemment, on a aussi beaucoup d'artistes anglais parce que c'est là qu'on retrouve une très très grosse tradition de UK très très implantée. Et la plupart des gros artistes du style sont là-bas. Donc, typiquement, le dimanche, par exemple, on va faire Fat Man Sound, Aeration Stepa et Channel One, donc ils sont trois générations de sound system anglais hyper emblématiques de cette scène-là. Donc on est très content de mettre ça aussi en avant. Et puis sinon, ouais, on essaye de Ouais, de montrer un petit peu, de ramener par chez nous et pour le public chez nous des composantes, des activistes du dub un peu partout dans le monde pour montrer que ce style qui est parti de la Jamaïque, qui s'est vraiment beaucoup développé en Angleterre puis en France, bah, il a fait des petits un peu partout. Et maintenant, on a des scènes bah, vraiment un peu partout dans le monde et c'est chouette de pouvoir. Les faire venir et présenter leur travail. C'est aussi vraiment une logique. Il y a beaucoup de choix artistiques dans cette prog qui sont des activistes, vraiment,
Ouais,
ce
c'est
qu'on
ce que
appelle
j'allais
des
dire.
activistes. Donc des gens qui ont
Ouais,
des
c'est.
labels, des magasins de musique, des festivals, qui organisent des soirées, enfin qui sont vraiment actifs chez eux pour promouvoir ce style de musique.
Quand tu dis activiste, ça veut dire des gens actifs, pas forcément des militants. Il y a un message politique qui est inhérent à la scène reggae dub, mais.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah après, ça dépend des uns et des autres. Nous, c'est vrai qu'on parle plutôt d'activistes du mouvement dub et de la scène sound system parce que c'est des organisateurs et parce qu'il faut beaucoup d'huile de coude et un certain engagement politique dans le sens où c'est généralement très underground, très do it yourself et c'est donc voilà un style de musique. Qui se bat un peu pour exister, pour trouver des espaces, pour trouver des lieux, qui met souvent en valeur des morceaux, des musiques, des paroles qui sont quand même militantes. C'est une musique qui a ces racines-là, qui voilà, qui à la base parlait de colonialisme, d'esclavage, de racisme, de tous ces sujets-là. Peut-être qu'on le voit un peu moins aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu avec la popularisation du style, et il y a peut-être certains artistes qui se sentent moins, comment dire, animés par ces messages-là, mais il y en a quand même encore beaucoup, et c'est important pour nous aussi dans nos prog de pouvoir, voilà, souligner ça et ramener des gens qui sont, voilà, tributaires et porte-parole de toutes ces valeurs-là.
Est-ce que vous considérez que le festival est un festival engagé sur toutes ces thématiques?
Bah, pas forcément. En fait, je pense qu'on aimerait bien que ça le soit plus. En fait, assez naturellement, à l'origine, le festival, il avait cette mission-là de, bah, enfin, c'est toujours le cas, mais de vraiment de promouvoir cette culture sound system et reggae avec toutes les valeurs qui vont avec. Ce qu'on sent quand même, c'est que le dub s'est énormément popularisé. Maintenant, on en trouve dans tous les festivals. Il y a des corner dub un peu partout. Et ça a ramené beaucoup de public entre ce qu'était le festival il y a 10 ans et ce qu'il est aujourd'hui. Bah, l'affluence a beaucoup. Enfin, le festival déjà s'est développé, a une plus grosse affluence. Et en fait, on se rend compte parfois que bah, avec cette popularisation et cette massification un peu du public, on a des gens qui se rendent peut-être pas compte des racines engagées, militantes et politiques qu'il peut y avoir dans cette musique-là. Et ouais, on réfléchit, on aimerait bien toujours bah, remettre ça un peu en avant sur les valeurs de cette musique, mais aussi d'autres valeurs qui nous sont chères, comme le fait de pouvoir faire la fête dans un environnement qui est safe, le fait de pouvoir sensibiliser aux questions environnementales aussi.
Et tous les engagements du festival, on va y revenir. Cependant, effectivement, là, tout ce que tu dis sur l'engagement de la musique, du dub, du reggae, etc., ça fait évidemment écho aux coupes budgétaires de la région qui touchent de plein fouet le monde de la culture, mais aussi le monde des solidarités, mais aussi le monde du sport. Vous, comment vous avez reçu toutes ces annonces de la part du Conseil régional et de Christelle Morançais?
Bah, un peu comme tous les acteurs de la culture, quoi. Enfin, c'est terrible, quoi, que cette manière de faire, cette politique-là. Au-delà d'enjeux de réduction budgétaire ou quoi, c'est vraiment, je pense, des actes politiques qui vont contre la culture et contre tout un tas d'éléments de solidarité dans notre société. Et ça rend, bah, c'est pas très encourageant. Je pense que beaucoup de structures culturelles vont se casser la figure dans les temps qui arrivent. Et en fait, il y a un shift de ces personnes-là comment dire, d'une contribution via les subventions à des projets culturels globaux qui parlent à plein de monde et qui mettent en valeur des choses qui peut-être ne pourraient pas exister sans ça. Et ils arrêtent ça pour aller plutôt vers de la charité qui leur va bien, avec des structures qui leur va bien, une culture qui leur va bien et qui. Et bah, je le déplore. Nous, au festival, on a perdu des subventions, évidemment. Alors, de
Ça
base,
représente combien?
ça représente. On a perdu entre 30 et 40 000 euros à peu près cette année. Et on en perdra encore l'année prochaine. En fait, c'est un très petit pourcentage parce que le festival est, a quelques subventions, quelques partenaires, principalement des prestataires avec lesquels on travaille qui nous aident un peu par ailleurs. Mais le gros, le très très gros de notre budget, plus de 80, je pense plus de 95% de notre budget vient de la billetterie, de la restauration, des bars sur place. Mais ces 5% de subventions, en fait, c'est ce qui peut tout changer pour nous dans la survie du festival parce que l'économie du festival est en grande difficulté aujourd'hui. Il y a plein de
Et oui,
festivals
c'est
qui
les
jettent l'éponge.
festivals qui, c'est voilà, c'est exactement.
C'est que les petits festivals aujourd'hui réessaiment, que les énormes festivals, ça va à peu près, mais que ces festivals un peu médium, gros, un peu à l'image du Dopcamp, à l'image de Terre du Son, à l'image d'Astropolis à Brest, voilà, c'est la galère, quoi.
Ouais, bah ouais, parce qu'on est juste au niveau suffisamment gros pour comment dire, avoir des contraintes techniques, de sécurité, de légal, etc., etc., qu'ont peut-être pas toujours les petites structures qui se lancent et qui coûtent beaucoup d'argent. Alors c'est une bonne chose, hein, ça permet d'avoir un festival qui est safe, qui est bien organisé, etc. Mais ça coûte très cher et l'inflation est hyper importante depuis pas mal d'années. L'année dernière, on nous disait que c'était à cause des JO. Cette année, c'est 5 à 10% plus cher que l'année dernière. Pourtant, il n'y a
Ah
pas de
oui.
JO. Donc c'est en fait ça continue tout le temps à monter et du coup bah les 30 000 euros de subvention potentiellement c'est ce qui va faire qu'on est à l'équilibre ou qu'on arrive à mettre un peu de sous de côté pour travailler dans de bonnes conditions.
Et puis c'est un salaire en fait, 30 000 euros aussi, hein.
Ouais, par exemple, ouais, c'est ça. La plupart des festivals ont besoin de remplir énormément pour commencer à être rentable. Nous, j'ai regardé les chiffres avant-hier, il faut qu'on soit entre 90 et 95% de remplissage pour être à l'équilibre. Et c'est compliqué en fait, c'est difficile d'atteindre ce niveau-là. Donc, ouais, c'est pas très joyeux comme sujet de conversation, mais malheureusement, c'est une réalité, c'est des structures culturelles qui se battent pour survivre. Et le Dubcamp fait partie de ces structures-là, on n'est jamais sûr qu'on va pouvoir perdurer. Et donc, voilà, si vous avez rien à faire le week-end du 11, 12,
Voilà,
13
c'est
juillet,
ça.
n'hésitez pas à venir pour soutenir ce genre d'initiative culturelle, quoi.
Voilà, le meilleur moyen de soutenir, c'est encore évidemment d'y aller. Donc, on va peut-être reparler au-delà de l'enjeu de solidarité, de venir soutenir les festivals du coin. Voilà, qu'est-ce qui fait venir les gens? C'est aussi la musique. Peut-être que tu peux nous dire, toi, un ou deux noms de spectacles, de concerts, d'événements à ne pas rater. Je dis spectacle, événement, parce qu'il n'y a pas que les concerts, hein. Le Dubcamp, c'est aussi des balades comptées, c'est des ateliers, il y a des fanfares aussi itinérantes. Enfin voilà, les quelques éléments à ne pas du tout louper à l'occasion du Dubcamp.
C'est difficile de faire un choix. En plus, je fais partie du comité de programmation, donc j'ai beaucoup travaillé sur cette prog. Mais moi, je conseille vivement d'aller voir bah, le vendredi Empress Sativa, une chanteuse jamaïcaine qui vient avec Paolo Baldini d'Upfalls, qui est un producteur italien qui était déjà venu il y a quelques années. Ils sont en train de travailler sur un album. Ils ont quelques vidéos sur Internet avec plus de 60 millions de vues, je crois. C'est vraiment une super artiste qui est très rare à voir en Europe. Donc, je suis très très content qu'elle vienne, cette chanteuse. Le même jour, il y a le Clash. Donc, c'est encore tout un pan de la culture reggae, dub, sound system. On en avait fait un il y a 2 ans. Donc c'est un espèce de combat musical où deux sounds différents vont chacun leur tour passer des morceaux sur un temps très court. Il y a tout un tas de règles et puis en fonction des réactions du public et de la rareté des morceaux qui jouent, en gros ils marquent des points et puis à la fin il y en a un qui bat l'autre parce qu'il a la meilleure sélection. C'est un gros mouvement en fait, enfin sous-mouvement dans notre mouvement, et donc on est très content de pouvoir mettre ça en avant cette année comme on l'avait fait il y a 2 ans. Il y a les copains de Digital Power qui va faire un stand pour apprendre à mixer en live, donc sur console. Donc ça c'est pareil, c'est pour vraiment comprendre cet univers là, c'est dingue. On va avoir des conférences assez cool aussi sur le camping. On a une grande tente qui sera installée sur le camping avec un petit sound
system. C'est un peu la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a des animations aussi sur le camping.
Ouais, on en avait avant, puis on les a retirés l'année dernière, c'était uniquement camping. Et en fait, là, on en remet un petit peu. Donc, il y aura des initiations au sound system, à l'emploi du préamp, il y aura des open platines et il y aura des conférences, donc une conférence par jour. Il y aura aussi des talks avec des artistes. Le samedi, on aura Vixen Sound qui vient de UK et Conscious Way International qui est un crew de Guadeloupe qui viendront discuter avec le public à cet espace conférence. Et le dimanche, ce sera Channel One qui viendra prendre un temps pour discuter avec les festivaliers. Donc il y aura quelqu'un pour traduire et puis on pourra en savoir plus aussi sur ces artistes. C'est là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment partager cette culture au-delà de la musique. Avec les conférences, avec les artistes, ça permet de mieux comprendre leurs engagements, leur histoire, leurs racines, et c'est quelque chose qui nous paraît important, quoi. Et puis allez, un petit dernier, il y en a plein, hein, c'est compliqué, mais le dimanche on a Dread Squad qui est un producteur polonais qui fait d'habitude plutôt du dub un peu moderne et qui vient juste de sortir un album très roots inspiré du jazz éthiopien. Et donc, c'est un mélange d'influences incroyables avec plein d'instrumentistes de fou. Et donc, il sera là avec Craig Crofton, un saxophoniste, et Don Fay à la flûte pour faire un live dub de ce projet, de cet album-là. Donc, ça va être, je pense, magnifique aussi.
Ouais, carrément, ça donne bien envie. Il y a 4 scènes en tout, c'est ça, un chapiteau, la scène un peu internationale, la Dub Club Arena et la Sound Meeting Arena, c'est ça?
C'est ça, ouais. Il y a 2 scènes en extérieur, donc le Boxman Yard et l'Outer National Arena. Et puis il y a 2 grands chapiteaux, donc l'un avec les sound meetings. Donc tous les jours, 3 sounds qui viennent jouer ensemble, chacun leur tour, toute la journée. Et puis le Dub Club qui est une assez grosse scène aussi.
Vous laissez une place un peu au local. Est-ce que vous, il y a des artistes nantais, du Maine-et-Loire, des Pays de la Loire qui se produisent?
Tout à fait. Ouais. Cette année, on a toujours au moins, on va dire 4-5 artistes sur la programmation qu'on considère comme local. Ouais, donc Nantes, mais aussi un peu aux alentours. Là, cette année, on fait Kraken Dub qui habite en région nantaise depuis très longtemps. Qui est un producteur incroyable, DJ incroyable, qui fait beaucoup de soirées mixant dub avec d'autres styles aussi un petit peu, et qui fait aussi, car un gros studio de mastering, qui fait du mastering pour beaucoup de gros artistes comme Panda Dub ou autres par exemple. Et donc lui, il sera là le samedi. On a le Phone Stepper et Mango Loco le dimanche. Donc Mango Loco, c'est un crew entre Nantes et Angers d'ailleurs, plus près de Nantes, mais voilà. Et donc le Phone Stepper, c'est un super producteur issu de ce crew-là qui fait de la trompette et qui produit tous ses morceaux lui-même. C'est vraiment top. Et puis on aura une petite ouverture un peu sympa. Le samedi après-midi, on aura Mr. FT et El Mastodonte qui vont nous faire un B2B tropical latine, donc pour sortir un petit peu du reggae le temps de l'après-midi. Et FT, c'est aussi un local, un Nantais de chez nous.
Trop bien. Mais Évidemment, toute la programmation est à retrouver sur le site du Dopcamp et sur le site de Radio Campus Angers. Peut-être qu'on peut parler un tout petit peu de vos engagements, parce que c'est vrai que vous engagez pour que le Dopcamp soit un espace safe, mais aussi un espace éco-responsable. Vous êtes sur un site Natura 2000, ce qui empêche évidemment d'avoir des spectacles pyrotechniques, de mettre des feux d'artifice, etc. etc. Et vous avez fait une étude sur plusieurs espèces de chauves-souris avant, pendant et après le festival pour savoir si jamais ça impactait les chauves-souris, le fait qu'il y a un festival sur cette zone, sur ce site Natura 2000.
Ouais, c'est ça. On a fait ça. On en avait fait une autre quelques années avant sur d'autres espèces qu'on retrouve à cet endroit-là. Alors, j'ai plus tous les détails en tête, mais la conclusion, c'était que l'impact est relativement négligeable sur les populations. Donc, c'est quelque chose auquel on essaie de faire attention.
Les
on se pose
chauves-souris aiment
toujours
le
un peu des
dub.
questions. Hein?
Les chauves-souris aiment le dub.
Écoute, peut-être. ouais. En fait, le son peut être un peu embêtant pour ces espèces, mais si j'ai bien compris, pour en avoir parlé un petit peu avec des gens qui s'y connaissent vraiment bien, le risque, c'est aussi plutôt la lumière. À quel point on a des lights un peu partout qui éclairent les arbres, où il peut y avoir des oiseaux en nidification ou des espèces qui vivent dans ces endroits-là. Donc bon, on peut pas faire un festival dans le noir. On est obligé de mettre quand même pas mal de light dans l'endroit un peu accueillant, et puis c'est aussi plus sécurisant. Mais en tout cas, on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on peut faire pour faire mieux et avoir autant que possible un impact pas négatif sur l'environnement. C'est tout le principe d'une zone Natura 2000. C'est pas une zone Natura 2000. C'est pas une zone où on s'exclut de faire des activités humaines. C'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter un écosystème avec des activités humaines au sein d'un espace naturel, et comment est-ce qu'on le fait intelligemment pour qu'il y ait une bonne cohésion entre toutes ces espèces.
En quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps, vous avez pas mal d'actions éco-responsables que vous avez listées dans votre dossier de presse qui sont vraiment chouettes. Notamment, vous travaillez en partenariat avec Le Fourgon, plus de bouteilles plastiques pour la limonade et le cola, c'est en fût. Donc c'est chouette. Il y a l'eau, évidemment, plein de points d'eau sur le festival, et vous pouvez amener vos gourdes. Vous avez divisé votre nombre de groupes électrogènes par deux en 2024. Et ça, moi, j'aimerais juste qu'on s'arrête quelques instants, parce que c'est quand même un challenge hein, pour tous les festivals, quels que soient leurs engagements écologiques, d'arrêter d'utiliser ces groupes électrogènes qui sont au cœur des consommations, évidemment avec la voiture et les déplacements des festivaliers et festivalières, mais c'est au cœur des consommations d'énergie. Et vous avez réussi à diviser votre nombre de groupes électrogènes par deux. Comment vous avez fait?
Ben, en fait, entre 2023 et 2024, on a pris la décision de réduire la taille du festival. Donc déjà de passer de 4 à 3 jours et d'enlever certaines scènes et de réduire la jauge du festival pour diverses raisons, notamment écologiques. Donc il y avait une logique aussi économique. C'était avant, le festival faisait que croître tous les ans, et on s'est dit en fait on n'arrive plus à s'y retrouver vraiment, à suivre. Ça représente des gros risques économiques et financiers. Et donc, on s'est dit, OK, la bonne taille de festival, c'est à peu près 9000, 9500 personnes par soir, pas plus. Sur 3 jours, c'est suffisant. Et ça nous permet de mieux contrôler tout un tas d'éléments financiers, mais du coup aussi, on va dire, techniques, logistiques et donc écologiques. Et donc, en fait, on a repensé complètement le site du festival à ce moment-là, et on a réussi à mieux mutualiser certains espaces techniques entre les scènes, derrière les scènes, là où en fait on a les groupes électrogènes typiquement. Et bref, en faisant tout un travail, voilà, de réorganisation de l'espace et de simplification un peu des zones logistiques et techniques, on a pu réduire le nombre de groupes électrogènes dont on avait besoin. Alors, on a des groupes électrogènes qui sont un tout petit peu plus gros que ceux qu'on avait avant pour assurer la puissance nécessaire. Mais en fait, on a quand même eu des gains assez importants du fait d'une meilleure organisation de l'espace, et puis évidemment d'une réduction un petit peu du, du nombre d'artistes et du nombre de
Oui,
scènes.
s'il y a moins de scènes, évidemment, il y a moins de groupes électrogènes.
Petite question sur les éco-cups. Je sais qu'en Touraine, ils ont mis en place une mutualisation des éco-cups entre tous les festivals. Est-ce que vous, il y a de nouveau des nouveaux éco-cups qui sont floqués chaque année aux couleurs de la nouvelle édition du Dub Camp? Notamment, là, en plus, c'est votre dixième. Donc peut-être que oui, mais... mais voilà, mais non, pas d'éco-cup floqué, c'est bien.
Ouais, ça fait 2 ou 3 ans, je crois, au moins, 3, 4, même peut-être un peu plus. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Ouais, je pense que ça fait 3, 4 ans. Donc on loue des éco-cups, effectivement, mutualisés de tout un tas d'autres festivals, et ça faisait des beaux souvenirs aux gens, mais bon, c'est en fait beaucoup de pollution, ces éco-cups, donc, à un moment donné, mieux vaut peut-être se mettre des souvenirs dans la tête
Plutôt que de
plutôt que dans le
rajouter
fond
un
d'un
éco-cup
placard.
sur la pile des éco-cups du fond du placard. Et d'ailleurs,
Ouais.
n'hésitez pas à venir avec vos éco-cups, hein. Si
Ben
jamais
oui,
vous en avez
carrément.
chez vous, évidemment, ramenez-les.
Peut-être pour conclure ces échanges, Clément, c'est la 10e édition du Dub Camp. Petite émotion, je suppose. Il y a des petites surprises de prévues, des trucs comme ça?
Bah écoute, on a augmenté enfin on a repoussé un peu l'heure de fin le dimanche par rapport à ce qu'on avait annoncé au départ, histoire de fêter ça plus longtemps. Après, en fait, j'ai envie de dire, on va pas faire de trucs énormes spécifiquement parce que c'est la 10e. Je pense que le festival rentre un peu dans une phase de maturité en termes d'organisation, et notamment avec ce nouveau format qu'on a fait depuis l'année dernière, plus humain, qui nous paraît plus logique. Cette année, on confirme, disons, l'efficacité, le bien fondé de ce format-là. Et en fait, moi, je le vois plus cette 10e comme, voilà, une confirmation de beaucoup d'années de travail, de beaucoup de recherches pour trouver une taille qui nous correspond, qui correspond au public, qui permet d'accueillir les gens dans de bonnes conditions et de se faire plaisir tous ensemble. Évidemment, si on était beaucoup plus riche, on aurait fait des trucs beaucoup plus dingues, mais il y a aussi ces réalités-là qui font que, à budget limité, on fait toujours au mieux de ce qu'on peut. Donc je pense que ça va être une très belle édition. On est très content de la prog, de toutes les animations qui vont avoir lieu. Je pense que ça va confirmer ce qu'on a trouvé très cool l'année dernière en termes d'organisation de l'espace et de vibe créé pour les gens et avec les gens.
Eh ben, le Dubcamp Festival, c'est à jouer sur ordre les 11, 12 et 13 juillet. Merci beaucoup, Clément, d'avoir été avec nous à bord du pédalo sur Radio Campus Angers.
Eh bien, merci à toi, merci pour votre soutien, et puis à dans 2 semaines.
Ah, dans 2 semaines, carrément. Merci beaucoup. Et ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans 2 semaines, c'est Manon Allard et Antoine Thomas Magri, nos deux grands gagnants-gagnantes, qui ont tous les deux remporté une place 2 jours pour le Dubcamp Festival sur nos réseaux sociaux. Un grand bravo à eux d'avoir joué. Si jamais vous voulez vous aussi tenter votre chance pour un autre festival, le festival Terre du Son, le jeu concours, je crois, a été lancé à l'heure où on parle. Et donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre Instagram et sur le Facebook de Radio Campus Angers. Et le pédalo lui termine sa traversée sur les ondes de campus. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Demain, la saison des festivals continue et on vous présente donc Terre du Son. Alors restez bien avec nous et surtout n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.